Voilà, bienvenue. On va ouvrir cette session et puis la terminer, en fait, sur la vie du disciple. C'est vrai que c'est tellement riche, savoir que Jésus nous a fait cette grâce de pouvoir entendre parler de lui, de venir, et de pouvoir aussi voir ce que dit la Bible sur le disciple, sur ce que nous pouvons vivre ou revivre, renouveler d'une manière eh bien toute nouvelle, parce que c'est vrai que ça englobe tellement de domaines dans nos vies. Hein, donc ça nous rappelle aussi tout ce qu'on a pu voir. Hein, donc on va mettre une autre diapo, ça va vous donner un peu le sommaire de ce qu'on a pu voir. On a retracé tout ça parce que vu que c'est une étude que j'ai repris, j'ai retravaillé, voilà, ça a amené un petit peu de resituer un peu tout ça. Donc on a vu le disciple et sa transformation, c'est quoi un disciple, sa naissance, son identité. Et puis on a parlé des habitudes et la croissance du disciple. On a vu aussi le disciple et ses actions. On a parlé de réaction, de relation. On a parlé de privilèges et de responsabilités. On a parlé de difficultés et de ressources. Donc, voilà tout ce qu'on peut vivre, tout ce qui est à notre disposition. Et puis, ce soir, j'aimerais terminer avec la mission du disciple et l'équipement du disciple. Alors, quelques pistes. Et puis, les récompenses du disciple. Hein, on va vers les récompenses. Ça va? Ça vous plaît, non? Oui? Ah, merci Seigneur, hein, quand même. Hein. Donc, merci Seigneur parce que la vie du disciple, c'est le propre même de toute notre vie ici-bas, notre cheminement. On doit cheminer en tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai, mais aussi en tant que disciple. Hein, donc, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a pu voir. Mais j'aimerais une autre diapo pour vous montrer, peut-être, vous le voyez peut-être pas forcément très clair. C'est peut-être l'histoire d'un voyageur sans valise. Imaginez, vous devez partir demain matin pour un voyage d'exploration au cœur de la jungle hostile. Et certainement que vous n'iriez pas avec des pieds nus. Ou peut-être avec un simple t-shirt, les mains dans les poches. Évidemment que non. Mais vous passerez des heures à vous préparer face à ce territoire hostile. Et puis, certainement aussi avec une boussole, trousse de secours, des vêtements adaptés, des provisions. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut quand même dire, la vie chrétienne, c'est aussi un terrain sur lequel on vit sa foi. On vit sa foi pour être agréable à Dieu. Amen. Et puis, bah bien sûr, nous ne sommes pas ici-bas, bien que s'il en faut des vacances pour reprendre des forces, nous savons que le disciple a aussi une mission, hein, une mission à accomplir, et puis doit avoir un équipement adapté pour pouvoir faire face dans la vie aux responsabilités que Jésus nous a données. Amen. Que devons-nous faire? Le mot disciple signifie, eh bien, un apprenant, un élève. C'est celui qui apprend du Seigneur, un disciple, oui, qui apprend comme on l'avait vu dans les définitions. Je vous passe quelques définitions aussi qu'on avait pu voir tout au départ. Mais le but de cet élève, c'est pas de rester sur les bancs de l'école toute sa vie, bien que c'est bien d'être assis, d'écouter le maître. Mais nous devons aussi assumer aussi dans ce rôle d'être un ambassadeur de Christ. Ambassadeur de Christ, un représentant du royaume de Dieu et de pouvoir vivre comme un enfant de Dieu qui représente et qui a là un témoignage pour vivre, oui, à la manière que le Seigneur le désire. Alors on se rappelle par là, entre autres, que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Amen. Ça va? On continue? Allez, un verset. Un verset clé que vous connaissez. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Il est vrai que Jésus voit large. Il est vrai que Jésus voit grand. La mission, le mandat donné aux disciples, certainement les dépasser. Imaginez-vous. On se retrouve à une équipe eh bien de 12 disciples, ou 11, parce qu'il y en a un malheureusement qui a mal fini. Et puis, les 11, Jésus est là et il vous donne cet ordre de mission d'aller par tout le monde et d'annoncer la parole. Certainement, vous seriez senti bien vite pris, petit dans vos chaussures, petit dans cette mission, de dire « Quoi ? Moi ?» Et pourtant, le Seigneur a pu se servir des 12 disciples. Nous imaginons que le Seigneur n'a pas manqué de dire qu'il voulait des disciples. Il ne voulait pas des chrétiens. Aujourd'hui, on débat tellement sur ça, mais la réalité, c'est qu'est-ce qu'on voit chez nous qui définit en nous un disciple qui plaît à Jésus. Un chrétien peut avoir toujours des étiquettes, mais un disciple, il a plutôt la Bible en main et la possibilité aussi de démontrer encore eh bien, cette vie à vivre avec le Seigneur. J'aimerais mettre une autre diapo, prendre cette illustration, le relais de la flamme olympique. Pensez aux porteurs de la flamme olympique, le but n'étant pas de garder la torche pour soi, ou soit de courir seul dans son coin avec sa torche, avec sa torche olympique. Le but ultime, c'est de courir pour transmettre la flamme, en suivant et en faisant attention que la flamme ne s'éteigne pas. Hein. Mais la mission du disciple, c'est transmettre la flamme, c'est la foi, transmettre la parole de Dieu, le témoignage. Et les JO sont faits tous les 4 ans, et on parle d'été, hein, entre autres. Un athlète, avant de devenir cet athlète, il a toujours vu d'autres personnes avant lui. Et puis, ayant travaillé, parce qu'avant il était trop jeune, on pourrait dire, et en fonction de son travail, il aura aussi son moment de rentrer dans les JO. Vous avez eu des gens comme ça. Et puis ensuite, il aura son moment, sa période, sa carrière, on pourrait dire. Et puis ensuite, il devra passer le flambeau à un autre et un autre suivra. Et à tour de rôle, les générations s'en suivent. Pouvons comprendre par là, l'illustration de la flamme nous démontre bien que le témoignage de l'Évangile va de main en main, va de maison en maison, va de vie en vie. Alléluia. Et merci Seigneur, parce qu'il nous en a fait toujours ce privilège de l'avoir pour nous, mais aussi d'avoir pu le transmettre. Oui, la mission du disciple. Merci Seigneur. Il y a un autre verset que j'aimerais vous donner, parce que Jésus, lui aussi, il a porté cette flamme. Quelle flamme, n'est-ce pas? Quelle flamme pour aller vers toute créature, pour parler de l'amour de Dieu, pour témoigner, démontrer l'évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, nous montrer par là que le royaume de Dieu s'est approché de nous. Jésus a porté cette chaleur au cœur froid. Jésus a porté cette chaleur au cœur religieux, à ceux qui étaient bien loin des préceptes que Jésus lui-même donnait. Jésus a transmis cette flamme. Il s'est pas ménager 3 ans nous rappelle vraiment ses efforts. Et ses efforts, il allait de lieu en lieu. Et comme le texte nous dira qu'il va aussi confier cette flamme, on pourrait dire, à ses disciples. Jésus parcourait toutes les villes, cette autre diapo, les villes, les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Mais qui se lèvera aujourd'hui, frères et sœurs, de façon à se préparer pour aller porter la flamme à d'autres demain? Et qui à leur tour porteront cette flamme? Le disciple a cette mission par le Seigneur, par ses paroles qui nous montrent bien que la moisson est grande. Il y en a tellement trop peu, hein, tellement trop peu, oui, qui prennent conscience de ça, peut-être un matin d'aller témoigner, peut-être un matin de prendre quelqu'un par le bras et puis de dire « je vais prier pour toi », peut-être d'aller transmettre un prospectus, peut-être d'aller servir le Seigneur dans l'Église, au travers peut-être des enfants, au travers peut-être de la jeunesse. Mais nous savons que le Seigneur a bien dit, il l'a bien dit. Oui, la mission est grande. Mais la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et s'il y a peu d'ouvriers, nous avons à prier pour cela, parce que le Seigneur désire encore faire de grandes choses. Le maître de la moisson désire encore envoyer, il prépare. Oui, comme ce relais de la flamme, il faudra son temps, il faudra s'y préparer pour la porter. Peut-être c'est le message et c'est peut-être l'investissement d'une vie tout entière. Oui, parce que si notre vie se résumerait à porter témoignage à une personne tout au long de notre vie, je crois que la vie serait digne d'être vécue. Amen. La vie serait digne d'être vécue et que cette flamme puisse atteindre quelqu'un d'autre. Et merci Seigneur pour de tels enjeux qui sont autour de sa parole. Lorsqu'on voit André, souvent on parle de Pierre, mais son frère André est le modèle parfait du disciple en mission, peut-être en toute simplicité, parfois peut-être caché derrière un autre. C'est un peu comme les trains qui en cachent un autre. Mais dès qu'il rencontre Jésus, sa première réaction, c'est d'aller chercher Pierre. Et il lui dit quoi ? Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Amen. C'est beau de voir, parce que il avait suivi Jésus lorsque Jean-Baptiste avait dit, voici, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il l'avait suivi. Et Seigneur s'est retourné. Il avait dit, mais qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, il se retourne et nous aimerions savoir, nous aimerions voir où tu vis, tu demeures. Et Jésus les a engagés à sa suite. Oui, c'est vrai que la mission peut parfois commencer d'une manière toute simple, souvent par notre entourage, par ceux qui nous sont proches. Et merci Seigneur pour ce qu'il fait. Alléluia. Oui, la mission du disciple. Une autre diapo pour nous le montrer encore. La mission du disciple, ce n'est pas seulement suivre Jésus, mais comme on parlait un peu d'ambassadeur et ce n'a pas été des moindres de ce que Jésus a confié à ses disciples. Il aurait pu dire, vous allez faire des tâches matérielles, moi je vais garder l'annonce de l'évangile, la guérison, je vais garder tout cela. Mais il a donné mandat à ses disciples, vous rendez compte ? Il a donné mandat à ses disciples, ce n'était pas seulement de le suivre, mais il y a les trois, on pourrait se rappeler par là, et de manière pertinente, il y a l'appel de Jésus. Jésus les emmène à l'action aussi, puis Jésus les emmène aussi à l'annonce, à la proclamation du plein évangile. Et l'appel, c'est suivre Jésus personnellement. L'évangile se vit, alléluia. L'évangile est une bonne nouvelle. L'évangile est un partage. C'est l'appel de Dieu pour nos vies. L'appel au salut, mais l'appel aussi à servir dans la mission du Maître, dans la moisson du Maître. Et suivre Jésus et devenir des pêcheurs d'hommes, manifester l'amour de Jésus par des actes, et puis annoncer, proclamer, enseigner, transmettre, évangéliser, la bonne parole à toute personne. Amen. Une autre diapo, l'appel à devenir des pêcheurs d'hommes. Alors c'était assez paradoxal, parce que Jésus, quand il a dit ça, il parle à des pêcheurs. Donc l'image est vraiment adaptée pour les aider à comprendre et à se rendre compte que s'ils y allaient à pêcher au filet, comme disaient des pères évangélistes, ils disaient avant on pêchait au filet, maintenant on pêche à la ligne. Il y avait plus de facilité auparavant que maintenant. Mais ceci dit, s'il faut en attraper qu'un, on peut en attraper qu'un. Alléluia. Et merci Seigneur et qu'il nous fasse grâce. Mais l'appel à devenir des pêcheurs d'hommes. Jésus a dit, oui, eh bien, par cette identité à devenir des pêcheurs d'hommes, Jésus ne leur demande pas de mettre en étalage leurs compétences. Mais il veut les transformer dans sa mission, les transformer dans ce que lui prévoit, dans ce que lui veut pour le bien des autres. Alléluia. Il dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il fallait être à la suite du maître. Il fallait écouter le maître. Il fallait observer le maître. Et cette mission, assez petite, on pourrait dire, parce que qu'est-ce que 3 ans ? Cette mission consisterait à les rassembler. Comme se rassemblent des pêcheurs pour partir travailler en plein labeur toute la nuit, mais c'est sûr, ils partent pour répondre à l'appel de Jésus. Parfois, l'appel de soi doit se faire entendre bien en amont, et il devra raisonner, et il devra mobiliser pour plaire au Seigneur. Alléluia. Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Amen. Et Jésus a engagé ses disciples et ils ont pu trouver du bonheur, de la joie, trouver de l'empressement. C'est comme un aimant. Il les a attirés, il les a comme emmenés. Et merci Seigneur, non pas l'aimant dans le sens opposé, mais plutôt dans ce sens où ça colle, où ça racole, où ça colle vraiment à sa suite et à le regarder, l'observer. Merci Seigneur pour un tel exemple. Faisons-nous aimant avec Jésus. Collons-nous à ses paroles, collons-nous à sa volonté. Oui, suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Pêcheur d'hommes peut-être sur mon quartier, peut-être pêcheur d'hommes sur mon lieu de travail, peut-être dans ma famille, peut-être même à l'égard de ceux qui ne sont pas forcément favorables pour nous. Mais par le moyen de l'évangile de paix, c'est de pouvoir transmettre cette parole. Oui, le Seigneur a certainement un plan pour nous. Un plan adapté, personnalisé, sur mesure, pour nous permettre d'être ces témoins. Oui, ces personnes qui sèment une parole. Merci Seigneur. Voyez-vous que l'appel doit se faire entendre parfois bien en amont. Les disciples, rapidement, ils ont été emmenés comme cela. Et parfois, il faut du temps. On est conscient que tout peut se faire rapidement, mais parfois, il faut aussi du temps. Quel âge avaient les disciples quand Jésus les a appelés ? Voilà une question intéressante. Quand vous regardez, ils étaient très jeunes. Et à l'époque du Second Temple, le processus d'apprentissage, il commençait très tôt. Un jeune disciple, un talmide, commençait généralement à suivre un maître après avoir terminé son éducation de base, souvent de 13 et 20 ans. C'est jeune, hein ? Et quand vous regardez des Samuel, quand vous regardez aussi des hommes qui ont marqué comme des Daniel, etc. L'appel s'est fait entendre très jeune. Et puis il faudra du temps. David, très jeune aussi, entre autres. Mais la plupart des disciples étaient, d'après des commentaires, étaient probablement très très jeunes. Et alors ça peut se renforcer avec des explications. Hein. Jacques et Jean étaient dans le bateau de leur père Zébédée, qui suggère qu'ils étaient aussi certainement sous sa tutelle. Entre autres, les premiers apôtres, ils ont été très jeunes. Hein, et Jean, par exemple, il est mort vers la fin du premier siècle. Donc il était beaucoup plus jeune, si vous faites le regard de tout cela. Pierre semblerait, lui, être un des plus âgés du groupe. Il était déjà marié, il est question de sa belle-mère, et puis il a souvent un rôle un peu du grand frère, souvent de celui qui emmène les autres. Et il semblerait qu'il pourrait avoir eu entre 25 et 30 ans, très proche de celui de Jésus, lorsque Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Et c'est sûr que c'est encore un autre détail, d'après les commentaires, qui nous laisse apercevoir que lorsqu'il y a eu la taxe du temple, dans Matthieu 17, 24, qui nous donne un indice aussi précieux. Quand on demande à Jésus de payer la taxe du temple, il envoie Pierre pêcher un poisson, et dans la bouche duquel il trouverait un statère. Hein, et puis à l'époque, selon Exode 30, pour payer la taxe, pour les hommes de 20 ans et plus, donc ça suggère fortement, ça suggère fortement que les autres avaient peut-être moins de 20 ans à ce moment-là. Donc vous voyez, ça nous donne parfois aussi un regard sur des beaucoup plus jeunes, hein, parce qu'il faudra, comme je vous disais, il faudra que l'appel se fasse entendre bien en amont, devra résonner, et devra aussi mobiliser dans ce sens de la mission des disciples. Là, on parle de vocation, on parle de cette mission, mais aussi cette mission aussi étendue dans le sens d'être un témoin de Jésus, un témoin de ses miracles, un témoin de ses œuvres. C'est beau de voir cette mission que nous avons. Nous sommes certainement à devoir aussi comprendre ce que il avait été dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous vous souvenez de cette parole? Une parole de Jésus qui avait été reprise par Paul et qui sortira. Elle n'était pas donnée comme cela dans les évangiles. Mais il relate cette parole et il a reçu du Seigneur parce que Jésus l'a pas vu. Mais il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On est souvent dans l'attente. On est dans un siècle où on est passif, on est dans l'attente de quelque chose. Mais le Seigneur nous demande aussi de regarder la mission qu'il a donnée à ses disciples, la mission qu'il a confiée à l'Église, la mission qui reste bel et bien encore importante. Oui, c'est vrai, merci Seigneur. Diapo 9, il y a aussi, si on a parlé de l'appel, il y a aussi l'action. Imaginez un verset bien embarrassant, comme le verset de Matthieu 10, verset 8, « Guérissez les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Avec ça, qui veut essayer? Eh oui, hein. On s'aperçoit que la parole de Dieu, elle nous déstabilise parce qu'elle nous emmène dans une mission qui est au-delà de tout ce qui peut se concevoir d'un point de vue humain. C'est divin, c'est l'action de Jésus. C'est Jésus qui est capable de guérir. Alléluia. C'est Jésus qui ressuscite les morts. C'est Jésus qui purifie les lépreux. C'est Jésus qui chasse les démons. Alléluia. Et il veut trouver de ceux qui répondent à sa mission et qui y croient. Alors, on n'est pas de ceux qui vont aller faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe qui. Mais nous comprenons que la mission vient bien au-delà de ce qu'on peut concevoir et voir par nous-mêmes. On le sait que c'est par son esprit, par sa parole. La mission est inséparable de la compassion, de l'aide concrète qui peut être donnée aux plus affaiblis. Jésus l'a expérimenté et il a confié cela à ses disciples. Oui, alors ça, parler d'une action, ça c'est une belle action, hein. Et donc, eh bien que Jésus puisse encore guérir des malades, qu'il puisse ressusciter des morts. Hein, purifier des lépreux, chasser des démons. Ah oui, faut l'avoir vécu hein, pour en parler. Et merci Seigneur pour sa grâce, parce que il y a que lui qui peut en parler parfaitement. Et merci Seigneur pour la vie qu'il y a en lui. Alors oui, on le voit dans ce qu'il a confié à ses disciples. Et c'est pour cela que l'Évangile a eu une telle répercussion, une telle réussite au travers des siècles, c'est parce que le Seigneur veille sur sa parole pour la confirmer. Et encore au jour d'aujourd'hui, nous devons vraiment garder sa parole pour encore croire et rechercher vraiment l'efficacité qui est démontrée par le Seigneur lui-même. On ne pourrait pas par nous-mêmes, on le sait bien, mais c'est vrai que nous avons vraiment besoin de dire « Seigneur, confirme encore ta parole ». Ce qu'on a besoin, comme on l'entendait tout à l'heure dans la prière, ce que je disais encore ce matin au Seigneur, ce qu'on a besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Ce qu'on a besoin, c'est de voir le royaume de Dieu s'approcher. C'est pas et chercher d'avoir une certaine théologie. C'est imaginer une théologie avec des grands savants chrétiens et avec ceux qui vivent des miracles. Il n'y a pas photo, il n'y a pas d'autres comparaisons. C'est frappant, mais nous avons vraiment besoin de laisser et de permettre au Seigneur de faire son œuvre. Amen. Ah, trop peu d'amen. Hein. Eh oui, excusez-moi. Hein. Mais nous avons vraiment besoin de le voir agir. Et c'est surtout ça qu'on a besoin. Avant que Jésus ne revienne, il faut qu'il confirme sa parole, que des âmes soient sauvées, que des malades soient guéris, mais que tout cela confirme vraiment. Ah oui, c'est vrai qu'on a vu et on a entendu des personnes guéries qui parfois repartaient, tournaient les talons, ne saisissaient pas. Eh bien, le plus important, comme la guérison de l'âme, la guérison pour l'éternité, et ils avaient la guérison peut-être d'un membre du corps, et ils partaient, n'ont pas réalisé. Mais pourrions-nous détenir le droit de savoir, le droit de dire, le droit de trancher dans tout cela? Non, on a vraiment besoin que le Seigneur soit à l'œuvre. Oui, il y a de quoi encore prier et de laisser au Seigneur eh bien, d'accomplir sa mission par oui, le travail aussi de tout à chacun, par la mission de l'Église. Amen. Oui, on a parlé du triple A, appel, action, annonce. Oui, faire des disciples, la proclamation de l'Évangile, annoncer, dire, rendre témoignage, transmettre ce qu'il a dit pour le donner encore au jour d'aujourd'hui. Jésus, avant de monter au ciel, son objectif, c'était que sa parole soit transmise. Il a dit, cet autre diapo, eh bien, qui dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est beau de voir que cette parole, c'est cette parole-là qui change les cœurs. C'est cette parole-là qui travaille dans les vies. Oui, il envoya sa parole et il les guérit. Donc c'est le pouvoir du Verbe incarné, Christ lui-même, qui vient pour rendre les réalités et conjuguer dans nos vies les verbes de sa parole. Le Verbe, oui, qui incarne dans nos vies, eh bien, l'intervention de Dieu. Jusqu'alors, c'était pas possible, mais sur la proclamation, la prédication de l'Évangile et sur la prière, le Seigneur fait grâce. Ah oui, c'est bon de pouvoir se rappeler que le Seigneur a une parole, vous vous rendez compte ? Une seule parole est pour toutes les nations, pour tous les cœurs, pour toutes les vies, toutes les situations, toutes les détresses. Toute personne peut encore se retrouver dans les paroles de Jésus. Toute personne peut se retrouver bien dans les paroles de Jésus pour nous montrer qu'il est capable d'intervenir dans nos maux, dans nos problèmes, mais encore de faire de nous de ses disciples. Et nous emmener à le suivre, à le servir, et puis encore de transmettre à d'autres la bonne parole du Seigneur Jésus. Amen. La mission est grande, frères et sœurs. Mais ce n'est pas parce qu'elle est grande qu'elle nous dépasse, qu'on doit se décourager, mais de pouvoir dire, oui, peut-être que ça sera un enfant comme la petite fille auprès de Naaman. Elle lui a parlé des miracles de Dieu. Que Dieu pouvait faire quelque chose. Cet homme était lépreux. Il dit, mais c'est qui cet enfant? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle lui a donné une parole et cet homme a fait ce que cet enfant lui a dit. Oh, on dit souvent, les enfants obéissez à vos parents. Mais là, c'est eh bien, un adulte qui a obéi à cet enfant et sa chair est redevenue saine, comme celle d'un enfant. Ah, merci Seigneur. Quel témoignage de voir l'efficacité et l'obéissance qui en découlera. Oui, parce que je crois que lorsque sa parole, oui, est semée dans un cœur, ça ne nous laisse pas tranquille. Ça travaille. Et elle va lever, elle va germer, elle va prendre place. Et le Seigneur va faire son œuvre. Jésus en a fait promesse. Le plus important, eh bien, c'est pas eux-mêmes ce qu'ils ont pu faire. Ils l'ont fait simplement et modestement. Mais le Seigneur n'avait-il pas dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Sans la force et la capacité du Saint-Esprit, oui, la mission reste une simple tâche humaine. Il faut aller, il faut faire. Mais quand il y a le Saint-Esprit qui agit, alors c'est sûr, oui, l'appel est toujours là, la mission est toujours là, mais il y a l'action du Saint-Esprit. Amen. Oui, les disciples n'étaient pas, je crois pas, des experts, des professionnels. La qualification, c'était d'obéir tout simplement et revenir aux instructions de Jésus. Oui, on doit s'atteler aux paroles de Jésus et c'est ça le plus important. C'est pas ce qu'on peut en dire ou ce qu'on pourrait interpréter, mais c'est les paroles, les instructions de Jésus. Amen. Une autre diapo, l'équipement du disciple pour pouvoir accomplir la mission que le Seigneur nous confie. De quoi avons-nous besoin? La liste pourrait être grande, hein. On peut avoir quelques parties, quelque chose, quelques détails. Mais partir en mission avec nos propres forces, souvent pourrait se solder à un échec. Mais jamais Dieu nous envoie sur le terrain sans nous donner des outils, sans que Dieu qualifie, sans que Dieu fasse grâce. Ça reste simple, ça manifeste, ça incarne vraiment un homme ou une femme qui reçoit de Dieu, modestement. Il n'y aura pas perte et fracas, il n'y aura pas forcément des lumières, des anges qui vont venir, etc. Mais la mission s'accomplira, et nous avons vraiment besoin de chercher eh bien, à plaire au Seigneur pour qu'il puisse faire son œuvre. Amen. Un autre verset, eh bien, verset clé de cette autre diapo, c'est, eh bien, oui, ça se résume peut-être avec Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Il y a des armes, il y a un équipement. Il y a une panoplie, on pourrait dire, du chrétien, du disciple, en Jésus, qui nous a, on l'avait déjà vu, mais qui nous dit qu'en Jésus, nous avons déjà tout cela. nous l'avons, hein, la ceinture de la vérité, le casque du salut, tout cela en Jésus, nous l'avons, mais il faut le garder. Il ne faut pas baisser les armes, il ne faut pas baisser la garde, mais il faut la maintenir et il faut veiller, prier, et encore, avec sa grâce. Oui, c'est imaginez peut-être l'équipement d'un pompier. Le pompier ne fonce pas dans une maison en feu avec sans sa combinaison, son casque, sa lance incendie, et tout l'équipement de Dieu n'est pas esthétique, mais il est fonctionnel pour résister aux réalités du terrain. La vérité, la justice, la foi, la parole de Dieu. Donc on sait que c'est vraiment, on veut éteindre les traits enflammés du malin pour que le feu de Dieu puisse embraser les cœurs de l'amour de Dieu. Amen. Il ne faut pas se tromper de feu, hein. Il ne faut pas se tromper de feu, hein, c'est sûr. Si on se laisse embraser par le feu de la GN ou le feu de la langue, c'est sûr qu'on a vraiment besoin que ce feu-là soit stoppé. Il faut envoyer le pompier pour éteindre cela. Mais c'est qui le pompier? Eh bien, le Saint-Esprit, Seigneur, vient dissoudre ce feu-là, afin que le feu de Dieu puisse eh bien, nous embraser. On ne peut pas être appelé à vivre ces deux feux, le feu du monde et puis le feu du ciel, ce n'est pas possible. Mais nous avons vraiment besoin d'avoir cet équipement pour plaire au Seigneur. Amen. David face à Goliath. Le roi Saül veut équiper David avec sa propre armure de bronze. Mais David la refuse, elle est trop lourde. Ça ne lui convient pas, il n'est pas accoutumé à porter ça. David, c'est un homme de foi. Comment voulez-vous l'alourdir avec des principes, avec des choses qui sont purement humaines? Et lui, il est là pour foncer de 5 pierres qu'il prend dans le temps, il n'en sert que d'une. Et il y va au nom de l'Éternel, il a une foi, il a une autorité, et il y va. Et comment voulez-vous l'alourdir avec des principes? Faut pas que tu fasses ça, mets-moi ça, mon petit, tu vas pas t'en sortir toi-même. Ah ben c'est sûr, oui. Eh bien, il a dû mettre ça de côté, et puis il a foncé. Et puis le Seigneur était avec lui. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Seigneur, on ne demande pas de copier les équipements des autres, mais de pouvoir vivre, et bien sûr, ce qu'il dépose, ce qu'il communique par sa grâce, par sa fidélité. Alléluia. Nous avons dans notre équipement peut-être besoin aussi de cette boussole. Cette boussole dans les combats, dans l'adversité où le combat fait rage. Nous avons besoin d'avoir des repères, s'y retrouver. Il est où le nord ? Il est où le sud? Il est où? Hein, il faut qu'on s'y retrouve. Eh bien, on sait que la parole de Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On voit souvent la parole comme la parole, le livre, l'ouvrage. Mais Jésus est aussi la parole. Ta parole, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça pourrait nous parler aussi de Jésus qui est le guide. Jésus, la parole faite chair, la parole parmi les hommes, c'est lui qui met la lumière sur nos pas, sur nos pieds, pour nous permettre de pouvoir suivre. Puis si Jésus, la parole est devant nous, on sait qu'on est sur la bonne voie. Si Jésus nous devance, si sa parole nous devance, eh bien merci pour tout ce qu'il fait. Amen. Ça va? Bon, j'ai pas prévu d'exercice. Ça va? Vous êtes tellement doué que... J'ai même plus de questions à vous poser. On peut parler aussi du vêtement, de cet équipement, c'est le vêtement de l'humilité. Ah oui, on en a besoin. Dans le monde qui, aujourd'hui, s'affiche tellement, avec des uniformes imposants, avec des tenues qui nous heurtent, le disciple, l'équipement de base, on pourrait dire, eh bien, ce vêtement, c'est peut-être le tablier de service. Ah oui, se tablier. La Bible dit « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » 1 Pierre 5,5. Oui, merci Seigneur. Oui, parce que ce tablier de service nous aidera aussi à comprendre ce que Jésus nous enseigne. Cette combinaison de travail n'est pas là pour se montrer, mais c'est permettre... Eh bien, de salir peut-être les mains pour aider les autres. Et c'est sûr, c'est l'équipement du disciple, de celui qui avance. L'équipement du disciple, c'est aussi la prière. C'est un pouvoir, la prière, qu'on n'imagine pas. Le Seigneur est capable, par la prière faite, peut-être du bout des lèvres, peut-être dans notre tête... Peut-être dans notre cœur qui serait comprimé, serré, On veut bien être un disciple, on veut bien avoir une mission, on veut bien chercher l'équipement, mais face à mes problèmes, face à mes soucis, face à la famille, face, eh bien, aux représailles, à l'opposition qui est là, ça paraît être si fragile, si faible, la prière. La Bible nous dit, priez sans cesse. Eh bien, c'est comme, eh bien, le téléphone, s'il n'est pas branché, eh bien, il pourra pas ravoir de l'énergie pour le lendemain. Et nous avons vraiment besoin de prier sans cesse, continuellement, et d'être en maintien dans la prière, en connexion encore dans la prière. Élie était un homme de la même nature que nous. Ah oui. Il a eu des découragements. On lui dit, toi, ta vie, c'est fini. Hein, c'est comme ça qu'on pourrait le résumer. Et puis la Bible dit de lui, c'est vrai, oui, il a été dans un moment très déprimant, très relâché, il s'est vraiment laissé aller. Il a fallu vraiment la parole de Dieu, que le Seigneur l'amène, lui permettre d'être là, et dans ce secret, lui a fait grâce. Et puis, Élie était un homme de la même nature que nous. On voit le sommet et on voit la vallée juste après. Mais le Seigneur le ramène et lui donne une nouvelle fiche de route et l'envoie vraiment à vivre tout cela sur la base de la prière. Voyez-vous, la prière change les choses. Après des temps de sécheresse, il y a eu la pluie. Et une telle pluie qui est arrivée avec un tout petit nuage. Comment expliquer ça? Le Seigneur a fait son œuvre. L'armure du croyant, l'équipement du croyant. Oui, c'est... Eh bien, la prière. On n'imagine pas tout l'impact. Parce que derrière nos prières, frères et sœurs, on ne voit pas toujours le résultat. On ne voit pas toujours. Mais Dieu travaille. Dieu opère. Et merci Seigneur pour les prières des frères, des sœurs, de l'Église qui nous permet de voir l'efficacité, la fidélité de Dieu. Amen. Alors oui, pour terminer cette partie, on peut parler aussi de la protection. La protection spirituelle, on est face à un monde hostile. Comme l'image de tout à l'heure, on n'y va pas pieds nus, on n'y va pas, voilà, comme cela. Mais on réalise qu'il y a vraiment besoin d'une armure complète. Lorsque Paul parle aux Éphésiens, rappelez-vous quand même le contexte. Il y avait de l'idolâtrie. Et il y avait un monde ténébreux derrière tout cela. Et c'est pour cela qu'il termine cette épître comme un accent particulier qui est mis sur la dimension du combat spirituel. Alors, le combat spirituel, imaginez, mais les choses sont simples. Il faut voir aujourd'hui ce que certains font du combat spirituel. La démonologie ou tous ces termes-là qui deviennent des termes où selon et d'après des révélations, ils vont nous expliquer des choses. Mais en réalité, la parole de Dieu nous montre bien qu'il y a des armes de Dieu qui nous permettent d'être garants, oui, garantis du secours de Dieu, alléluia, du secours de Dieu. Dieu, devant les ténèbres, devant les combats spirituels, ne nous demande pas d'avoir une théologie à trois étages. Il demande d'avoir un cœur et d'une vie disponible pour croire à son intervention. Il y a certainement des choses qu'on ne voit pas derrière le voile, mais le Seigneur, lui, il sait. Lui, le Seigneur, y connaît, et le Seigneur est capable de faire son œuvre. Alléluia. Alors oui, la mission du disciple, l'équipement du disciple, nous sommes là tous en mission, frères et sœurs. Notre mission n'est pas terminée, le travail n'est pas fini. L'équipement, il n'est pas au vestiaire, mais il faut toujours le prendre, et on a besoin encore de la grâce de Dieu, parce que nous sommes la lettre que Christ écrit pour notre génération. Oui, c'est un message d'amour pour notre génération. Dieu a bien des choses encore à dire dans notre génération, bien des choses à faire. Oui, mais c'est pour cela qu'il faut encore des disciples qui reconnaissent, qui identifient la mission et l'équipement que le Seigneur veut pour chacune de nos vies. Oui, vérifiez votre équipement chaque matin. Rappelez-vous votre mission, peut-être au coin de votre table, au lever de chaque jour, et de dire, Seigneur, on commence, eh bien encore, et on se rappelle encore de se revêtir de la prière, la parole de Dieu comme cette épée, et la paix de Dieu pour pouvoir avancer, eh bien en eau sûre, oui, en sécurité avec le Seigneur. Amen. On va terminer maintenant avec une autre partie, c'est les récompenses du disciple. Parce que il faut aussi donc une autre diapo qui vont vous montrer que quand on pense au mot disciple, on imagine souvent les sacrifices, renoncer à soi-même, porter sa croix, traverser les épreuves. Vous vous souvenez? Et on va en voir justement des termes. C'est une réalité que Jésus n'est pas pour nous un maître difficile, mais il est plutôt pour nous celui qui va nous permettre dans sa grâce d'avancer. Et on n'a pas à se gargariser de récompenses, de choses, parce qu'on sait que tout nous est donné par grâce. Et donc on a aussi bien le tribunal de Christ, on a aussi à avancer pour comparaître et rendre des comptes aussi au Seigneur. Et il est parlé aussi des récompenses. Mais avant tout cela, nous sommes conscients que la Bible nous démontre aussi de ces réalités-là. Regardez cette diapo. Est interpellé par ces textes qu'on connaît forcément bien, et tellement bien. Voilà ce verset qui dit « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » L'impression d'avoir un processus inversé. Tu veux gagner, tu vas perdre. Et tu penses perdre, mais tu vas finir par gagner. Les choses qui nous échappent, croyez pas. Mais en fait, cette parole-là, vous l'avez deux fois dans l'évangile de Matthieu. Deux fois. Est-ce que le copiste, est-ce que Matthieu s'est trompé? Quand il l'a écrit deux fois. La même citation, à un petit détail près, dans l'évangile de Matthieu. Et si on regarde le contexte, les deux versets s'adressent à des moments, des situations bien distinctes. En Matthieu 10, 39, Jésus est en train de donner ses instructions à ses 12 disciples avant de les envoyer en mission pour la première fois. Il les avertit des persécutions futures. Voilà, donc, avant de parler de récompense, il y a aussi ça. Mais Jésus rappelle bien et avertit aussi, parce qu'il n'y a rien à cacher, mais il le dit, merci Seigneur. Matthieu 16, 25, on est plus tard dans le texte, et Jésus vient d'annoncer pour la première fois sa mort prochaine sur la croix. Pierre essaye de l'en dissuader, et Jésus explique alors tous ses disciples ce que signifie concrètement le suivre et porter sa croix. Vous voyez, donc c'est à deux moments différents. Donc ça a son importance. Hein, donc une autre diapo pour vous donner de percevoir cette image, perdre ou gagner sa vie. Il y en a un, il y était un peu comme on avait vu au départ, un peu comme, eh bien, il pensait tout gagner, d'être tranquille. Mais en fait, il y a cette notion de perdre, mais en fait de gagner avec Jésus. En fait, cette parole et cette pensée de perdre sa vie pour la gagner est considérée donc avec des commentaires, des historiens, des théologiens, comme l'une des paroles les plus authentiques de Jésus. Ça a sa raison d'être. Parce que Matthieu l'a écrit deux fois. Et si vous regardez, elle est une fois dans Marc, elle est deux fois dans l'évangile de Luc et une fois en Jean. Comme ça, dans les quatre évangiles, c'est réglé, vous l'avez. Et donc, cela nous montre bien, frères et sœurs, que cette parole de Jésus nous montre avec quelle importance il l'a fait transmettre par ses disciples. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alors, il faut faire les bons calculs, il faut faire les bons choix, c'est vrai, hein ? Pas évident, hein ? Quand vous avez des projets, vous avez des plans, vous avez des idées, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Oh, moi, quand je serai grand, imagine un enfant, et vous sort tout ça déjà, c'est déjà réglé, c'est calé pour lui, en fait. Mais nous savons que le Seigneur nous met quelque part peut-être en garde à comprendre que le sacrifice de sa vie doit aussi nous amener aussi à réaliser le sacrifice de notre vie, frères et sœurs. Et oui, porter sa croix, imaginez, c'est peu enthousiasmant. Hein. Ah, c'est pas des slogans à l'eau de rose. Hein. Ah, on n'y est plus, là. Les facilités, eh bien, d'un évangile facile. et d'un évangile plutôt dans le renoncement à accepter de faire avec. Et vous avez certainement, vous, à votre manière, le faire avec un lot peut-être de pénibilité, peut-être d'entrave, de difficulté, de faire avec, envers et contre tout, en faire malgré tout et avec le secours du Seigneur. Peu importe qui nous soyons, ce que nous vivons, le Seigneur est fidèle pour nous montrer que on peut avoir un semblant d'une vie d'échec, une vie qui aurait, oui, qui n'a pas été retentissante, qui n'a pas été une vie forcément vue, forcément facile. Mais le Seigneur nous le dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Peut-être envisager la foi et la vie chrétienne, le service, l'exemple de Jésus, la mission de Jésus, aussi l'équipement du disciple, aussi les récompenses, peut-être les envisager autrement que ce qu'on peut les envisager selon la chair. Parce qu'on sait très bien que ce que Jésus nous a dit là, c'est comme des propos inversés en fait. Celui qui conserve sa vie, la perd. J'ai tout fait pour essayer de me tirer la fin, pour sauver ma vie. Mais tu risquerais de la perdre. Alors, oui, nul ne peut avoir deux maîtres à la fois. C'est de ne pas avoir sa vie pour la perdre, mais l'utiliser. À quoi ça servirait de gagner le monde si on perd son âme ? Oui, on peut réussir dans la vie, on peut avoir tout ce qu'il faut pour réussir. Et merci Seigneur pour ce qu'il est capable de faire et nous permettre d'avoir pour réussir, oui, et de voir sa fidélité. Mais il y a des enjeux qui sont les siens. Et en tant que disciple, on sait l'entendre. En tant que disciple, on sait l'entendre et on veut bien l'entendre. Et on l'accepte pour dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Ah, j'ai pas eu un amen unanime. Hein? Bon, je prends les noms. Voilà. Mais c'est sûr, c'est certainement lui qui a raison, croyez pas? C'est certainement Jésus qui a raison. Que le Seigneur nous fasse grâce dans ce qu'on peut nous-mêmes interpréter ou comprendre par notre logique, mais de dire, Seigneur, viens à mon aide, viens à mon secours. Alléluia. Allez, on avance. Il y a aussi les cinq couronnes quand on parle des récompenses. Il y a les récompenses immédiates dans la vie, la paix qui est là, la bénédiction, je vous passe ces citations. Et puis les récompenses éternelles. Amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne, la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. Qu'on puisse l'entendre nous dire, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Amen. Les cinq couronnes, hein, vous les connaissez, je ne vais pas détailler, mais la couronne de justice, hein, selon 2 Timothée 4,8, hein, c'est la couronne de justice mais réservée. Le Seigneur juste juge me la donnera dans ce jour, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. La couronne incorruptible, hein, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, pardon, ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible, 1 Corinthiens 9:25. La couronne de vie, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment, aussi dans Apocalypse 2:10. La couronne de gloire. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. 1 Pierre 5,4. La couronne aussi de joie. Eh bien, quelle est en effet cette espérance ou notre joie, ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous, aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement. 1 Thessaloniciens 2,19. Alléluia. Oui, il y a des conditions pour recevoir aussi les récompenses, bien sûr, que le Seigneur y voit, hein. Il connaît le secret des cœurs. La foi aussi est un accès. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Donc, voilà, réjouissez-vous. Hein. Votre récompense sera grande dans les cieux. Matthieu 5, 11. Les béatitudes, les persécutions. Il y a aussi le prix de la croix, mais le prix de notre foi. Hein. Pierre 1, 8, qui nous rappelle bien aussi. Vous avez cru, mais vous le verrez de vos yeux. Alléluia. Et donc, Paul aussi le disait aux Romains, Romains 8, 18, hein, il estime que les souffrances du temps présent n'ont rien à voir avec la gloire qui est à venir. Alléluia. Alors, servir le maître a toujours un prix, nous le savons. Mais tout cela, je pense que ça ne se négocie pas, ça se travaille dans la prière. Amen. Je voudrais terminer d'une manière particulière, c'est terminer par le manifeste du disciple. Vous connaissez le manifeste du disciple. Si tout ça, tout ce qu'on a vu, ces enseignements que vous avez pu voir, qu'on a pu se rappeler les semaines après les semaines, les dates qu'on a pu vivre ensemble, ça a pour but de nous engager, de nous stimuler dans la foi. Amen. Ça a pour but de nous ramener à l'essentiel. Permettez, je vous donne cette position de ce manifeste, un peu particulière, parce que c'est dans l'audace de la foi. Il dit, j'ai saisi la vision, j'ai pris ma décision, choisi mon camp, les jeux sont faits, et je le confesse, je persiste et je signe. Je suis devenu disciple de Jésus-Christ. Mon passé est racheté, mon présent est assuré, mon avenir plein d'espérance, j'ai brûlé les ponts, mon ancienne vie est crucifiée, ma nouvelle vie est sanctifiée, l'aventure a commencé, et je ne marche plus par la vue, mais par la foi, plus dans la condamnation, mais dans la libération, plus dans les ténèbres, mais dans la lumière. Je ne suis plus emprisonné, mais libéré, je vais de l'avant. Rien ne me détournera, ne me freinera, ne me distraira, ne me séduira, ne me déprogrammera, ne m'arrêtera, ne me détruira. Je ne regarderai pas en arrière, je ne me retournerai pas, je ne ralentirai pas, je ne me résignerai pas, je ne baisserai pas les bras. J'ai pris le départ de la course avec Christ, plein de force, car il me délivre dans la faiblesse, plein d'espérance, car il me délivre du désespoir, plein de force, car il me délivre du doute, et plein de courage, car il me délivre de Satan. Je suis désormais plein d'assurance. Les obstacles n'auront pas raison de moi. Les plaisirs ne me séduiront pas, car j'ai fait mon choix. La question est réglée, le contrat est signé, le plan de vol est accepté, je vais de l'avant. Et j'en ai fini de ne voir que le bout de mon nez, de marcher à tâtons, de mes rêves étriqués, de mes pensées négatives, de ma vision miniature, de mes gestes de nain, de mes projets mesquins et de mes paroles en l'air. Fini les engagements demi-teintes, la médiocrité, les promesses brisées, la discipline nonchalante. Mon esprit est renouvelé, je nourrirai des pensées qui sont saintes, je dirai des paroles qui sont vraies. D'un pas renouvelé, j'irai sur de nouveaux sentiers, fort d'un nouveau regard. J'aurai une vision transformée. J'ai été racheté à un grand prix, scellé par le Saint-Esprit. Je suis devenu un héritier du royaume. À partir de ce jour, je marcherai comme un prince qui prend pleinement possession de son héritage. Amen. C'est une manifeste du disciple qui est à signer peut-être. Peut-être à se repositionner, frères et sœurs. De manière à ne pas perdre l'enjeu et bien des choses qui sont vraies. Des choses qui sont voulues de Dieu et qui sont voulues pour nous tenir debout jusqu'à la venue du roi de gloire. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la vérité, Seigneur, qui, Seigneur, se trouve auprès de toi et dans tes paroles. Merci, Seigneur, de ta lumière. Puisses-tu briller sur nos cœurs. Puisses-tu briller, Seigneur, sur ce que nous avons reçu, nous avons entendu partager, Seigneur, merci. Merci de nous faire grâce. Merci de te plaire et d'agir encore pour la gloire de Dieu. Et Seigneur, merci de nous rappeler ta mission, l'équipement, les récompenses, toute cette vie de disciple, Seigneur, n'est pas pour rien. Elle est pour que tu sois honoré, tu sois glorifié. Alors merci de nous garder, nous raccompagner, Seigneur, que ta parole brûle encore dans nos cœurs et que ton nom soit glorifié. Seigneur, au nom merveilleux de Jésus, merci Seigneur. Amen.